Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault sur oravive.fr.
Musique à thème, c'est que du bonheur.
On s'aime à l'antenne,
on s'aime à l'antenne,
de la musique à thème,
de la musique à thème.
On s'aime à l'antenne,
on s'aime à l'antenne,
du bonheur et que même,
du bonheur et que même.
Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur Radio Oravive, la radio plus près de vous. Quel plaisir, quel bonheur et quelle joie de nous recevoir chez vous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui dans Musique à thème, nous avons le plaisir de recevoir, oh là là, il a plusieurs cordes à son arc. Il est écrivain, journaliste, producteur radio, il est baroudeur, il a rencontré les plus grandes personnalités, tout en intimité, tout en humanité. Il est avec nous dans les studios sur Radio Oravive. J'ai le plaisir de saluer monsieur, et je vais essayer de le faire à l'italienne, monsieur Mario Morizzi.
Parfait, parfait, 9 sur 10.
9 sur 10, c'est le petit re qui peut être...
Juste comme ça, parce qu'il faut que le prof montre son pouvoir depuis le début, sinon... Donc je m'appelle effectivement Mario Morizzi, pour les Français, Mario Morizzi en Italie chez moi, et je suis italo-français.
Italo-français. Pourquoi italo-français ?
Bah parce que j'ai été élevé grâce à l'école gratuite, obligatoire en France, alors que je suis fils d'émigrés qui ont fui Mussolini dans les années 20. Mais lorsqu'il y a Italia, la squadra azzurra contre la France, je suis pour l'Italie. Donc plus, c'est plus italo-français que franco-italien.
Bon, il en faut pour tout le monde. Avec toi, est-ce que je peux tutoyer Mario ?
Non, il n'en est pas question.
D'accord, ah, si, monsieur Morizzi, donc, à Madrid. Allez, Mario Morizzi, avec toi, on va parler d'abord de livres, parce que tu as écrit une dizaine de livres. On va en parler tout le long de cette émission. On va parler également de foot, puisque tu es amateur de football, et là on va en connaître un petit peu plus, et puis de ton parcours. Tu es un cosmopolitain, tu es un baroudeur, comme je le disais au début, tu as bourlingué ta bosse dans beaucoup de pays, et tu as en fait une aventure humaine et une aventure littéraire à nous raconter aujourd'hui dans Musique à thème. Mais avant de commencer cette émission, si tu le veux bien Mario, on va commencer par écouter une chanson, une programmation de ton choix. La première chanson que je vous invite à écouter, chers amis auditeurs, eh bien c'est une chanson mémoire. Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi cette chanson de Jacques Higelin, Tombé du ciel.
Eh bien, pour donner de la valeur et de la véracité à mon intervention, je n'appartiens à aucune communauté de croyants, mais en hommage à l'endroit qui me reçoit, je trouve que c'est beau de parler d'un thème commun à toute l'humanité, et Tombé du ciel, je crois que c'est adapté.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage. Un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu. Volage, ancien tueur à gages, comment peut-on tomber plus mal? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de trafiquant d'import-export. Tombé dans tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli sonore.
Bonjour, c'est Michel Drucker. Écoutez, musique à thème, c'est que du bonheur.
Mario Morisi, notre invité sur Radio Aura Vive dans l'émission Musique à thème. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur Bernard Di Domenico.
Bonjour à tous. Bonjour Bernard. Oui, Serge, c'est avec grand plaisir que je suis venu avec Mario pour écouter toutes ces histoires que je connais en partie, mais pas à fond. Mario, c'est un ami de longue date et qui est très cher pour moi.
Mario Morisi, tu disais que tu étais italo-français. Tu es donc né en Italie ?
Non, je suis né à Paris d'une famille italienne.
D'accord. Comment tu pourrais résumer ton parcours en quelques mots?
Alors, en 1922, mon grand-père Lazzaro Morisi, qui était un antifasciste notoire qui s'est illustré par des bagarres terribles avec les types à plumes noires qui venaient terroriser les gens dans les campagnes, est obligé de quitter l'Italie. Ça se trouve entre Gênes, Parme, c'est pas très loin de la frontière française. Et en hiver, au mois d'avril, avec sa maman qui est enceinte de sa sœur, ma tante, et mon grand-père, ils se retrouvent à Paris, car mon grand-père Lazare, en 1904, a fait son service militaire, mais est déjà venu de nombreuses fois en France, où il a rejoint des cousins. Donc on retrouve le modèle d'immigration qui est bien connu pour toutes les populations. Il y a les premiers, les pionniers qui arrivent dans un quartier, puis ils font venir leurs cousins, puis leurs familles. Et dans le quartier à moitié italien où j'ouvre les yeux, il y a en face de moi un bidonville occupé par des Marocains et des petites maisons qui ont été retapées par les ouvriers venus du Pas-de-Calais, venus de Normandie, venus d'Italie, venus d'Espagne. Et donc le monde où j'ouvre les paupières est un monde mixte près de la région parisienne, de gens simples qui travaillent très dur et qui tiennent à tout prix à ce que leurs enfants fassent des études pour qu'ils ne subissent pas le sort de ce qui s'est passé. Puisque je suis ici, je dois vous dire que j'ai ouvert les yeux en sortant de la maternité en bas de la rue Philippe Trière qui mène à l'endroit où les gens de l'affiche rouge, Manoukian et ainsi de suite ont été assassiné. Et quelque part, mon père très tôt me montrait du doigt l'endroit où il y a le mausolée, et que la présence et l'éclat lointain de l'écho des coups de feu, sans que je les ai entendus, est une des choses, avec le baraquement de Marocains en face de chez moi, qui ont marqué ma prime enfance.
D'accord. En fait, dites ta tendre enfance, ta jeune enfance, tu as été marqué par ce côté populaire, je vais dire.
Oui, populaire, mais alors je tiens à rendre hommage à mon papa, à ma mère plus que tout, parce que c'est elle qui s'est occupée minute après minute, pendant que mon père travaillait 10-12 heures par jour en déplacement. Mais c'est de mon père, lorsque je le voyais le dimanche, on descendait à la boule, c'est en bas de Nanterre, et on faisait des commissions au jambon de Parme, parce que c'était les odeurs de notre région d'origine. Puis on allait au PMU, et là, mon papa a sans doute initié ma vocation d'écrivain, puisqu'il tendait le doigt et il me disait « Tu vois mon fils, le monsieur là-bas, il est arrivé 8e du Tour de France. Tu vois la petite dame là-bas, elle a échappé au camp de concentration. Tu vois le type qui est là-bas, il a construit toute sa maison de ses mains. » Et quelque part, il y avait les bouquins, il y avait les héros du sport que mon père me vantait. Il y avait l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, les bouquins d'école, Napoléon. Mais il y avait aussi la certitude qu'autour de moi, il y avait énormément d'anonymes, entre guillemets, qui avaient des destins, qui étaient des romans eux aussi. Et ça a sans doute marqué la suite de ma vie.
Mario Morisi, tu es un boulimique de connaissances et de savoirs.
Boulimique, c'est un mot psychologisant qui dirait que ceux qui ont beaucoup d'appétit pour la vie seraient des anormaux. Je crois surtout que j'ai une curiosité infinie, que lorsque j'étais gamin, mes parents m'offraient, gloire à eux, des bouquins sur l'histoire universelle, et que je dessinais les Hittites, les Hottentots, les Moïse et les Ramsès, et que cette curiosité de tous les peuples lointains m'a vraiment aidé à apprendre de nombreuses langues. J'en parle 4 ou 5 à peu près bien, et j'en déchiffre plus. Et surtout, chaque fois que je tombe sur quelqu'un...
Lesquelles langues?
Bon, l'italien appris grâce au sport et à la radio italienne que mon père écoutait. Uh-huh. Le français, bien sûr, à l'école. L'anglais, grâce aux Beatles. L'allemand, parce que c'était la première langue, et grâce aux copines allemandes que j'ai découvertes pendant les carnavals.
Et pendant l'été.
Puis un peu le suédois. Et j'ai appris, puisque j'ai habité 2 ans dans le Sahara algérien, où j'étais prof et footballeur, j'ai appris à déchiffrer la arabe et à l'écrire, et un peu le finlandais, donc en fait...
Ah non, il y a plus que 4 là, hein.
Oui, déchiffrer, parce que parler, m'exprimer, il y en a 4 ou 5. L'espagnol, le portugais, je le comprends et je le lis, mais bon, c'est surtout une envie de... Je suis tellement bavard et j'ai tellement envie d'écouter qu'il faut bien que j'apprenne des mots.
Alors, tu as envie d'écouter, mais tu aimes bien aussi le transcrire. C'est pour ça que tu as fait, je le disais en début d'émission, tu as écrit une vingtaine de bouquins, et entre autres, celui qui est, on va dire, le dernier opus, tout dernier né de Mario Morisi, s'appelle « Traité de sa voix haute ». Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, de ton expérience, dans ta jeunesse, de tes parcours, de tes voyages, c'est un petit peu tout ce que tu transcris dans tous tes livres.
Il se trouve que j'ai adopté la stratégie sans le savoir d'un grand poète, écrivain, universel qui s'appelle Fernando Pessoa, qui est donc Pessoa, qui est le grand écrivain poète portugais, qui a laissé à sa mort une malle remplie de centaines et de centaines de textes signés et où sont présentés des hétéronymes. C'est-à-dire que hétéronyme, c'est pas pseudonyme. Dans pseudonyme et hétéronyme, il y a nyme qui veut dire nom en grec, mais des hétéronymes, je prends l'exemple, nez, pied, œil, sourcil, zizi, sont hétéronymes à corps humain. Grand-père, oncle, tante sont hétéronymes à famille. Donc il se trouve qu'ayant beaucoup voyagé, 6 endroits différents avant l'âge de 8 ans, puisque mon papa trouvait des boulots en déplacement, il trouvait un garni, et lorsque ça durait plus de 3 semaines, ma mère et moi arrivions en train et nous installions avec lui. Ça veut dire Marseille, où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai découvert le stade Vélodrome et Gunnar Andersson, le Mbappé de l'époque.
Oula, c'est vieux ça.
52, je ne me rappelle pas du score, je vous jure. Et alors donc sur les chantiers à Berre, Ensuite, on a été à Dunkerque, on a été à Boulogne-sur-Mer, on a été à Saint-André-de-l'Eure, on a été au Pornichet, pour finir dans le Jura, où mon père s'est enfin arrêté et où j'ai pu commencer mes études.
Très bien, on va parler de ce traité de savoir où, qui est ta dernière actualité, comme je le disais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quelles ont été tes références? On va tout savoir dans un petit instant, après avoir écouté une deuxième chanson de ton choix. Je le répète, tu parlais des Beatles, tiens, tout à l'heure. Pourquoi les Beatles?
Parce que mon oncle m'a offert Sgt Pepper, le premier album concept possible. J'ai trouvé les mots, les sons tellement beaux que j'ai pris le dictionnaire et que je suis passé de 2 à 18 en anglais en exactement 3 mois.
Ah
donc,
ouais.
Donc pour moi, le rock, les Beatles et toute cette époque, hein, les écrivains aussi, parce que quelques écrivains en anglais m'ont aidé à créer mon style. Donc effectivement, les Beatles, c'est un nœud.
Alors écoutez bien les enfants, la petite expérience de notre invité, achetez les albums, écoutez les albums et puis vous allez vous perfectionner.
Un petit dictionnaire
dans la langue.
Et on imite le son, n'est-ce pas? Donc, Hey Jude, c'est l'un des grands souvenirs de mon adolescence.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Don't be afraid, you were made.
écoutez Musique à Thème sur Radio Oraviv.
Les Beatles, Hey Jude, chanson, oui, oh combien mythique. Et on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en écoutant les chansons, on apprend l'anglais, mais aussi il faudrait écouter certains auteurs et on apprendrait aussi le français. Je vais faire un petit coup de gueule, excuse-moi Mario, dans cette émission, j'en ai marre des SMS où on n'arrive plus à écrire français. Maintenant, je t'aime, c'est JTM. Mais non, je t'aime, mais c'est je t'aime. Quoi.
Tu sais que l'un des principes réducteurs des slogans de mon œuvre, c'est conjuguer va te faire foutre au subjonctif passé.
Qui veut dire
ben, ça veut dire qu'à la fois on peut connaître les formes en as, us, is, tout en étant populaire. On n'est pas obligé de parler avec deux mots. Quoi.
Mario Morisi, invité dans Musique à Thème. On va parler donc du traité de Savarou, ton dernier opus. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie déjà d'écrire ce livre?
Alors, il faut que j'explique. Mon premier bouquin est sorti en 1986.
Il s'appelait
L'émirat du tourbillon. C'est paru à Paris, et donc à 32-33 ans que j'ai commencé à vouloir devenir l'écrivain que j'étais. Autrement, j'ai vécu énormément de choses, très aventureuses, dans le sillage de mon grand modèle qui est Henri Miller, un type à pas mettre entre toutes les mains. Donc en 86, puis en 87, j'ai créé l'idée d'un roman vendu par action qui a fait parler de lui dans le monde entier, c'est-à-dire que les actionnaires sont devenus les héros de mon histoire, ce qui était un petit peu insolent. Puis je suis venu à Marseille par amour, après avoir été le nègre de gens connus, et par amour, je suis arrivé ici, j'ai eu une fille, et je suis devenu Marseillais à part entière pendant 6 ans, puisque j'ai travaillé avec la revue de la Caisse d'Épargne comme secrétaire de rédaction, puis avec Tactique, qui crée le fameux légendaire gratuit d'arrêt spectacle, mes amis, et j'ai fondé l'Écho du Zinc, qui était le Tactique du café, qui était un truc d'expression citoyenne, d'insolence, etc. Donc, j'ai pas pu écrire parce que je me suis adonné à toujours la soif populaire de transmettre ce que j'avais appris aux gens normaux, aux gens humbles, aux gens de tous les jours, et pas uniquement aux intellectuels qu'on rencontre dans les salons. Et donc, j'ai fini par écrire en secret une série d'histoires à Besançon, à Marseille pendant cette période-là, et puis ensuite dans le Sahara. Et donc chaque fois que j'ai vécu quelque part, j'ai créé une fiction. J'ai donc envoyé un des Mario, un des pseudonymes, raconter ce qu'il a vécu pendant un an. Et cette histoire, c'est 8 nouvelles, 8 textes courts, certains très courts, d'autres comme la nouvelle marseillaise que je vous recommande parce qu'elle est explosive, elle s'appelle Odyssée 39-92. Ça a été écrit en secret entre mes articles, entre Tactique, entre ma vie, et tout ça était dans mes tiroirs jusqu'à ce que Philippe Vieille des éditions Souffle Court, spécialisé dans les formes courtes et les nouvelles, les short stories, les novellas, me dise: mais c'est la colonne vertébrale de toute ton œuvre, je veux le publier. Donc ça, c'était la partie invisible.
En fait, c'était mémoire, quoi.
Comment ?
C'était mémoire.
Oui, mais non, c'est des mémoires où je ne suis pas un jeu. C'est-à-dire que moi, je me méfie des gens qui racontent leur vie, puis c'est les héros, c'est les plus beaux, ils séduisent toutes les filles, ils sont intelligents, ils réussissent tout. Alors au contraire, c'est une catastrophe, Dieu s'acharne sur eux. En tout cas, c'était la colonne vertébrale de tout mon travail secret. Il me fait le cadeau, et tous ceux qui ont lu les bouquins, ou quelques-uns des bouquins qui sont parus de 2001 jusqu'à 2023, ont là le secret, parce que les personnages se retrouvent, se croisent. C'est toute une comédie que j'ai appelée comédie éclatée depuis 1976. C'est-à-dire qu'il y a la divine comédie, impossible de l'égaler. La comédie humaine de Balzac, impossible de l'égaler. Alors j'en ai inventé une, c'est la comédie éclatée. Ça veut dire que c'est les différentes parties de moi-même qui sont reliées maintenant à 72 ans et qui s'achèvent avant la dernière mi-temps, avant le bouquet final, c'est la fin de mon travail de toute une vie, quoi.
Ça nous raconte un peu les divers endroits où tu as voyagé, et entre autres dans la ville aux 1000 coupoles, en Algérie, c'était en 1980.
Entre 1976 et 1980, et je suis devenu... Alors, je suis italo-français,
oui,
algérien et finlandais. Alors, je m'explique, et c'est pas des blagues, parce que si on n'a pas des images à la radio, mais si tu vois le dos de ma main, à cause d'un méchant chameau qui s'est mis en travers du chemin de l'équipe de foot du Shabab Riyadi Ebeladi Etelwed, dont j'étais le numéro 7, appelé Kigan, j'étais le meilleur joueur de l'équipe parce que j'étais à l'équipe de France scolaire et j'étais vraiment très doué, le chameau a fait retourner le car, Je me suis explosé la main, nez cassé, côte près de la colonne vertébrale. Mon voisin était paralysé à vie. On m'a emmené à l'hôpital, non pas à El Oued, mais à Biskra, qui était à 180 km plus loin. Le bruit chez mes élèves et chez les gens des oasis, c'est vraiment les grandes dunes. Hein. C'est des gens qui vont pas souvent au centre-ville. On cru que Mario était mort, parce que j'étais le seul Européen peut-être à jouer en Algérie au foot à cette époque-là. Et lorsque je suis réapparu 4 semaines après et que j'ai marqué 2 buts pour battre Biskra, l'ennemi héréditaire, les gens se sont mis à chanter « Hamma Mario, Hamma Mario, Dieu l'a protégé ». Donc j'ai une chanson qui m'est destinée. Donc à partir de là, je peux dire que je suis italien-français et un peu sahraoui.
Bien sûr, c'est une résurrection quelque part. Est-ce que tout ça est écrit dans le traité de savoir où
Alors voilà le principe, ça commence par un conte pour enfants. C'est un gosse qui est à la plage, fabrique des châteaux et trouve qu'ils ne sont pas beaux et il les refait. Il s'endort en mettant des petits bouts de clous, des animaux dedans, mais il se réveille en sursaut et il voit bien que sa ville n'a jamais existé. Ça, c'est une.
Il refait le monde.
Ben c'est ça, mais c'est la clé de tout le bouquin, puisque un enfant ou un écrivain qui essaie de créer un monde, mais personne le lit ou très peu de gens, c'est un peu la même chose, ce qui n'empêche pas l'artiste de créer. Et puis les autres villes. Alors donc il y a Besançon qui est ma ville d'enfance, qui est explosive, 68 ans, mais il y a ce conte, la ville aux 1000 coupoles, qui est un récit. C'est mon voisin, Abou, qui partait au marché tous les matins et il rencontre tous les gens que j'ai rencontrés pendant 2 ans et demi. Donc c'est un récit poétique où on voyage dans un El Oued qui n'existe déjà plus. Maintenant, c'est devenu une mégalopole. Donc voilà, il y a des récits, il y a des provocations, il y a des contes, il y a des polars.
En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'en lisant ce livre, on voyage. On voyage. Et bon, bien sûr, on va mieux te découvrir dans ce livre, mais surtout c'est ce voyage que l'on peut s'approprier quelque part. Et ma question est, où peut-on se le procurer ?
Bon, alors, il y a plusieurs façons. Là, grâce à l'intercession de mon voisin là, qui fait le type sage avec son casque sans dire un mot.
Bernard, tu as déjà lu le livre ?
Ma maman, dans un premier temps, l'a lu. Donc, et elle en a tiré quelques conclusions. J'en ai fait part à Mario et elle était tout à fait d'accord avec ma maman. Maintenant, je vais me l'approprier et je vais le lire bien tranquillement quand je serai un petit peu en vacances.
Où peut-on se le procurer ?
Alors, pour répondre à ta question, on peut se le procurer. Là, on est presque, c'est une exclusivité. J'en ai parlé un peu dans la radio pour laquelle je travaille à Besançon lors d'un anniversaire. Mais vous êtes les premiers, la première radio en France à en parler. Donc, l'installation est en train de se faire. On peut déjà le commander sur le site de l'éditeur. Donc, c'est Soufflecourt Édition, c'est soufflecourt.com. Alors, vous voyez, il y a marqué Espace Pro, commander, on trouve facilement. Et puis ensuite, dans toutes les librairies, puisque les librairies peuvent faire un numéro d'Illicom et commander le livre, il arrive dans les 48 heures. Et bien sûr, je me plais moins à le dire, les messageries Amazon, Fnac et compagnie, qui peuvent être utiles, mais des fois qui ruinent un peu les librairies indépendantes.
Ah
donc,
oui.
Voilà quoi.
Ah oui, ça ruine un peu. Amazon, je pense que ton livre, je vais faire l'expérience, mais je pense que sur Amazon, on peut le trouver. Mais ça, je trouve ça désastreux, parce que par exemple, sur Amazon, tu vas trouver du reggae doc. Et moi, d'Amazon, j'ai jamais rien eu, tu vois. Donc, tu sais pas comment. Mais après, ça, c'est une petite parenthèse que je fais, Mario. Si tu les retrouves sur Amazon.
Oui, mais pour dire tout simplement, rien ne vaut un bon libraire à côté de la maison où on peut discuter avec le libraire, on peut avoir des conseils, plutôt que d'aller sur une plateforme de téléchargement. Alors, je vais rappeler juste le site de l'éditeur, c'est www.soufflecourt.com/auteur/Mario Morizet.
Étant donné que c'est un traité de savoir où qui a passionné les bisontins ou les gens de Besançon il y a quelques semaines, mais il y a les Parisiens rue des Abbesses, il y a une nouvelle, c'est un endroit où j'ai été veilleur de nuit et j'ai travaillé pendant 4-5 ans, et surtout pour les Marseillais qui nous écoutent, c'est Odyssée 39-92 que j'ai écrit entre 90 et 93 et qui est une histoire explosive où on va retrouver pas mal de figures mythiques, politiques et non, des années 90.
Avant de continuer à te découvrir, Mario Morizet, on va parler dans un petit instant de sport. On va continuer à parler de lui parce que tu en as fait une vingtaine. On va parler de l'homme de radio. On va parler bien sûr de tes voyages, mais on va continuer. Tiens, un endroit que tu aimes bien, l'Italie. Avec vous aimez bien toi aussi Bernard, Monsieur Paolo Conte, encore une programmation de ton choix. La chanson s'appelle
Sparring Partner. C'est un homme qui a lancé le jazz dans l'après-guerre et qui en a fait des magnifiques chansons. Et on peut le mettre dans la même catégorie que Brassens, Brel, Ferré, et le grand parolier poète italien.
Tu as jamais voulu être chanteur?
Qui non lavora
non fa l'amore.
Donc on voit que je ne pouvais pas faire carrière.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata. Segreta di così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, da, da. Certi applausi ormai, son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam.
Bon Bonjour, comment qu'ils vont bien ? Musique à thème, c'est que du bonheur. Et Vlan, voilà, c'est comme ça, puis c'est tout.
Vous êtes toujours sur Radio Aura Vive, la radio plus près de vous. Et aujourd'hui, dans l'émission Musique à thème, Mario Morisi, notre invité. Mario, on a parlé de ce livre il y a un instant, que l'on peut se procurer à l'édition Souffle Court. Cette œuvre s'appelle Traité de savoir où. Et je vais en résumer en quelques mots. C'est un livre qui retrace ton parcours, tes voyages.
C'est 8 fictions.
8 fictions courtes. Mais en fait, ce livre, il contient quand même pratiquement 300 pages.
240, oui.
Oui, qui contient 237 pages, exactement. Donc, 237 pages, c'est pas un condensé, c'est vraiment un roman.
Alors, je vais le dire autrement. Ce n'est pas simplement mes voyages. Dans chaque endroit où j'ai séjourné, parce que je ne suis pas du tout touriste et voyageur. Lorsque je vais quelque part, je rentre corps et âme dans la réalité de l'endroit où je suis. Et plutôt que de raconter mes souvenirs, je choisis un autre moi-même, un alias, qui s'appelle Mario Absentes lorsque c'est des polars, qui s'appelle Schwarz Belkacem lorsque c'est des bouquins cosmopolites, qui s'appelle Herald Flynn, ou qui s'appelle même Samia Cherifi, qui écrit des sonnets sataniques qu'elle vend sous le manteau. Et donc, tout ça, c'est donc des histoires que j'ai vécues, mais que je raconte par l'intermédiaire d'un autre moi.
Bien, en tout cas, ça donne envie de découvrir ton autre toi. Je voudrais que l'on parle de tes romans précédents. Ce qui m'a titillé quelque part, tu as écrit un livre qui s'appelle Castor Paradiso, avec un pseudo, Mario Absentes.
C'est une amie qui a créé cette collection et qui avait 4 écrivain sous la main pour les 4 premiers numéros. C'était une maison qui appartenait à Gérard de Villiers. Le deuxième l'a laissé tomber et elle m'a appelé, elle m'a dit « Tu as un mois pour écrire une histoire de matricide. » Je sais pas quoi. J'ai relevé le défi ayant été le nègre de gens assez connus. Et donc Absentes, c'est le nom qui a pris ma place parce que le type qui faisait la maquette n'avait pas mon nom. Et il savait pas, et il a mis Absentes à la place de Morisi, en ignorant. Et c'est devenu mon pseudo pour les polars. C'est-à-dire que j'ai écrit 5 livres qui sont des romans noirs. J'aurais tapé au saxo, Ai-je fait Cendrillon, Gaston Paradiso.
Et il y a un livre qui s'appelle Le Poisson d'Absentes.
Alors là, vous avez...
Et là, écrit par Mario Morisi.
Alors voilà, par la suite, je fais vite, j'ai eu 2 bourses de mission Stendhal du ministère des Affaires étrangères et je suis devenu le grand spécialiste du footballeur bouddhiste italien Ballon d'Or Roberto Baggio et aussi je suis devenu spécialiste du finlandais Arto Pasilina qui a écrit le fameux Poisson d'Absentes. Donc après être italo-français et algérien, je suis devenu finlandais parce que j'ai passé de longs mois dans les glaces et j'ai exploré la mythologie de là-bas. Donc ça veut dire que Absentes, qui était mon pseudo, est devenu un héros. Donc les personnages que j'invente sont tantôt des héros et quand on lit tous mes bouquins, la vingtaine, on s'aperçoit que ça fait une comédie éclatée où tout est relié l'un avec l'autre. C'est une préméditation de 25 ans.
D'accord. Il y a un autre livre qui s'appelle La boue et les étoiles. Et là, c'est assez surprenant, c'est une autobiographie.
Imaginez.
Alors, par toi.
Je suis devenu quelqu'un de relativement connu en Finlande grâce au Poisson d'Absentes dont je vous ai parlé, donc la rencontre avec le grand Arto Pasilina. Et j'ai rencontré un double docteur en physique, chimie qui m'a parlé d'un abbé de Franche-Comté, parce que j'ai été franc-comtois pendant de longues années, qui était un savant inconnu qui a fait partie d'une grande expédition pour voir si la Terre était plate avec Maupertuis. Je l'ai aidé à réaliser son doctorat, sa thèse de doctorat. On a été félicité, on a été lauréat d'un grand prix de l'Académie des sciences morales pour cette biographie. Et moi, du coup, sachant tout sur cet abbé inconnu, je me suis mis à sa place et je raconte son histoire aux gens 250 ans plus tard. Donc, en fait, pour tout dire, je choisis un sujet, je plonge dedans, j'étudie comme un journaliste ou un procureur et j'en sors une fiction à chaque fois. Ce qui veut dire que je suis une espèce de termite ou de taupe. Je suis au milieu, quelque part sous la terre, et il y a des trous, le trou polar, le trou football, le trou voyage, le trou
tes expériences quoi, voilà. que tu as vécu. Malgré la multitude de livres que tu as écrits, il y a un livre qui s'appelle Kerguelen, peintre soldat. Pourquoi il y a la peinture aussi dans
parce que j'ai suivi des cours de dessin et j'ai fait des portraits comme ça de façon amateur pour ma fille, mes amis. Et donc, je me suis mis à rentrer dans la tête d'un ancien combattant qui a fait toutes les guerres coloniales, qui a fait la guerre d'Indochine, d'Algérie, et qui se met en tête, vu les horreurs qu'il a vues, les têtes éclatées, il a terminé mercenaire en Guyane. Et il veut faire un tableau, puisqu'il est né en Normandie et que c'est la terre des grands peintres, et il veut faire un chef-d'œuvre avec une marine, avec un personnage féminin qu'il cherche tout au long du livre. Et il se bat avec ses gros doigts, il est bourré de cachetons, et il finit par créer cette toile unique dont on raconte le destin dans les dernières pages. Dernière page, pardon.
Soldata Sana, un algo-roman.
Alors ça, c'est 10 ans de travail sur le thème de l'émigration des femmes de ma région en Amérique. Et j'ai travaillé, je fais vite, j'ai travaillé comme un dingue pendant 8 ans. J'ai passé 5 fois 4 mois en Italie dans ma petite montagne. On a encore un duplex dans un hameau. J'ai interviewé tout le monde. J'ai été aux États-Unis, j'ai interviewé les Italiens d'Amérique, j'ai interviewé plus de 120 personnes qui ont des grands-mères qui ont quitté l'Italie en 2000. Et j'ai créé le premier DVD de papier. C'est-à-dire que c'est construit et que si un technicien, d'ailleurs j'appelle quelqu'un que ça pourrait intéresser, c'est construit par écrit avec des liens intertextes, hypertextes et tout, qui construisent la figure de l'héroïne Maria Rosa Morisi qui a vécu aux États-Unis, et on la découvre exactement comme dans un jeu vidéo. C'est un boulot phénoménal, chaque ligne, c'est illisible, 564 pages, mais certains pensent vraiment que c'est carrément, je me sers de descriptions vidéo, je propose de la musique, je propose des acteurs, des personnages, et c'est un bouquin qu'on peut lire par tous les bouts. Il n'y a pas de début, pas de fin, on monte sur un train narratif et on essaie de découvrir Maria Rosa.
Tu as été joueur de football en Afrique.
En Angleterre aussi.
Tu as joué aussi en Angleterre? Oui. Alors, en Afrique, dans quel pays?
Eh bien, en Algérie, dans le Sahara, avec le Chabab Riadi Abeladi Atelwed.
En Angleterre, dans quel pays?
Au Solihull Borough, près de Birmingham. C'était un club de 5e division semi-professionnelle.
Et en France?
En France, j'étais sélectionné dans l'équipe de moins de 17 ans avec Santini, futur entraîneur de l'équipe de France.
D'accord. Et j'étais de Saint-Étienne.
Oui, de Sochaux, en fait. Il jouait à Saint-Étienne, mais il venait de Sochaux. D'accord. Et donc, j'étais extrêmement doué. J'ai rougi à Besançon lorsqu'on m'a rappelé des gestes techniques dont j'ai oublié l'essence et la nature.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va faire un lien entre le sport et la littérature, puisque tu as écrit un livre avec quelqu'un que tu connais bien, qui est pratiquement un de tes très 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 proches. Il s'appelle Roberto Baggio, Le Monde selon Baggio.
Alors c'est un triptyque, il y a Le Monde selon Baggio, il y a Orfeo Baggio, une pièce de théâtre qui est un polar théâtral, musical, dont on a parlé dans le monde entier vraiment, mais c'est grâce à Baggio qui m'a laissé utiliser son nom, parce que Orfeo Domenico ou Orfeo Mario, ça aurait marché moins bien dans la presse argentine ou américaine. Mais effectivement, cette figure d'un type qui était blessé à l'âge de 16 ans et demi, qui était en talent légal de Maradona, qui s'est battu toute sa carrière contre les gens qu'il ne connaissait pas. Mais
international italien.
Non, plus que ça, dans les 15 plus grands footballeurs du monde, vénéré, il est considéré comme un bodhisattva par les bouddhistes japonais. Il y a des pagodes qui sont à son nom. Il a eu le prix de l'homme de la paix par le comité Nobel en 2010. Donc c'est un personnage, grâce du football, on l'a appelé Raphaël, au nom du peintre, le divin que de cheval. Donc c'est un type qui franchit les frontières du football, mais qui parle de bien d'autres choses.
Comment tu l'as rencontré, Roberto Baggio?
Ben parce que j'ai travaillé pendant 9 ans, j'ai réculté 10 000 articles dans plein de langues et tout, et que lorsque j'ai fait savoir que je voulais rencontrer sa famille, ses proches, j'ai vu tous les gens qui l'ont vu naître, et j'étais le jour de ses adieux à Milan. Il a accepté de me recevoir et il m'a laissé continuer de charger avec une grande élégance et une grande gentillesse. Et là, je lui ai envoyé une lettre parce que j'ai fini sa biographie, une biographie de 450 pages, qui est une biographie comme celle d'un artiste, comme il n'y en a jamais eu d'écrite sur un sportif.
Alors, tu es supporter italien, supporter français, supporter parisien, puisque tu es né supporter marseillais.
Ah, Olympique de Marseille en France, mais Fiorentina, la ville, le club de Florence.
Alors, et il y aurait un match Fiorentina-Marseille?
Ah, la Fiorentina, parce que là, je suis trop... C'est pour ça, c'est le petit pourcent. Mais... C'est le petit pourcent, 51-49.
C'est le 50,0009.
J'aime le violet.
Bon, alors il suffit que l'OM se mette en violet, puis c'est fait. Alors donc, le sport prend une place prépondérante. Il y a également, tiens, une personne que tu as rencontrée qui joue à l'OM aussi, qui s'appelle Jus Venka.
Oui, alors je suis de passage avec des amis de Besançon à Marseille où je viens d'habiter. Je rentre au Régate dans une brasserie qui est proche de la Pointe Rouge. Je m'installe au bar pour commander à boire à mes amis. Et là, des personnes passionnées causent de football. Et il y a mon ami le plus proche, Jean-Paul, qui dit « Vous y connaissez rien au patron ?» À ce moment-là, un voisin montre avec le doigt la photo de Jules qui reçoit la coupe des mains de Pompidou. Puis il lui dit « Le monsieur, là, c'est celui qui est sur la photo. » Je passe sur les détails, j'y suis retourné des dizaines de fois. Il est venu chez moi en Italie. Il est devenu le parrain putatif de ma fille. Et il est âgé, il avance en âge et tout. Il n'est plus tellement disponible. Mais c'est un homme avec qui j'ai partagé des moments exceptionnels. Un homme d'une grande classe, d'une valeur morale qui sort de l'ordinaire et que je suis heureux d'avoir rencontré.
On a parlé de sport et on va parler de culture, culture en général. Parmi les rencontres, il y a une personnalité qui est importante dans le monde culturel à Marseille et entre autres au théâtre Tursky, monsieur...
Richard Martin. Alors Richard Martin, c'est une belle histoire. C'est un ami qui s'appelle Daniel Bizet, qui est un type qui a été le premier noviero de la tauromachie française. Un type de Reims qui a réalisé son rêve et qui s'est retrouvé à Madrid, puis qui est revenu à Marseille, qui était auteur-compositeur. Et il m'a dit, je vais te faire un article pour ton Écho du Zing. L'Écho du Zing, ce journal que j'ai créé dans les années 90. Et on est allé rencontrer Richard Martin, qui a écrit un article, et puis par la suite, qui a fait mieux. Lorsque j'ai créé cette pièce de théâtre sur Roberto Baggio, Orfeo Baggio, avec une troupe de Saint-Étienne, il est revenu de Suisse exprès à Saint-Étienne pour voir la deuxième représentation de ma pièce. Donc c'est quelqu'un que j'admire profondément, qui s'est toujours battu pour la liberté de créativité, de création encore récemment. Et bien entendu, d'ailleurs, je compte le rencontrer assez rapidement pour lui parler du traité de Savoie-Roux.
Tu es également un homme de médias. Tu as fait de la radio ?
Oui, j'en fais en permanence en ce moment, oui.
Et dans quelle radio ?
Alors donc, encore une histoire merveilleuse, je reviens d'Algérie, je veux rendre ce que ce pays m'a donné, je joue au foot alors que j'étais directeur d'AMJ à Besançon, je joue au foot avec l'équipe de l'Escale, des gens qui viennent de la communauté Harki qui a été parquée dans des conditions épouvantables dans l'après-guerre, je les aide, je joue au foot, je les entraîne, les petites gamines de 9 ans qui étaient surprises de voir des Français qu'elles prenaient pour des gitans visiter leur campement ouzbek, c'était carrément un peu de ça, on est restés amis, elles m'ont appelé au secours pour sauver la radio une première fois il y a 5-6 ans. J'ai refait la grille principale. Et là, au centre-ville, on vient de fêter le 40e anniversaire et j'envoie une émission qui s'appelle L'Estaminet. L'Estaminet virtuel qui est ouvert à tout le monde, quel que soit ça. Et cet estaminet virtuel reçoit toutes les semaines, deux fois par semaine, des gens et j'espère que tu feras partie de la bande bientôt.
Ben écoute, avec grand plaisir. Juste rappelle-nous le nom de la radio.
Ça s'appelle Radio Sud Besançon 101.8 FM quand on est là-bas, mais radiosud.net, ce qui est facile à trouver sur Internet. Les émissions que je produis se passent tous les jours de semaine de 10h à 11h. Pourquoi pas un échange de ces quatre ?
Mais écoute, avec grand plaisir, puisque Radio Aura Vive échange des émissions avec Toulouse, on pourrait le faire avec Besançon, avec grand plaisir.
Alors je tiens à vous dire qu'encore une fois, et je le dis comme ça, par souci de clarté, j'appartiens à aucune communauté de croyance qui ne veut rien dire de reste, mais on a tenu pour notre 40e anniversaire cette radio créée par des gens de la communauté musulmane qui n'est pas communautaire. On a invité M. Dahan de Radio Shalom et des gens de RCF pour parler temps qui court, semer la plaie plutôt que la discorde. Je peux rajouter un truc, là c'est avec la générosité, la chaleur très italienne, méditerranéenne et orientale, mais je tiens à vous dire que je me bats comme un fou pour écrire, que je reprends 50 fois chacun des mots, chacun des trucs, que pour un fils d'ouvrier venu d'ailleurs, où le rêve c'était de devenir riche, et non pas d'être un écrivain, je peux vous dire que je mets tout ce que j'ai et que c'est vraiment une discipline assez redoutable qui te fait te priver de beaucoup d'autres choses.
Bernard, comment vous vous êtes rencontré ?
Alors, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années, si je me trompe, dans les années 90, autour de 92, un truc comme ça, parce que Mario s'occupait d'un journal qui s'appelait L'Écho du Zinc. L'Écho du Zinc, alors c'est quoi? C'est l'écho du Zinc.
Le journal qui abuse modérément.
Voilà, donc avec modération. Donc, et il faisait des articles donc, sur tout ce qui se passait dans un bar. Et il a fait un article sur Saint-Loup, donc là il s'était posé à Saint-Loup, il a rencontré des gens, et ces gens que je connaissais aussi, donc, et à cette époque-là, 92, c'était la Isabella, c'était le premier album de Reggae Doc.
Que tu interprètes.
Voilà, le grand boom de Reggae Doc, et Mario m'a fait, je crois, alors je ne vais pas dire...
Mais, attends, excuse-moi, oui, mais Isabella était un tube à l'époque. Hein.
Qui me l'a fait, donc sur cet écho du Zinc, là, et j'en garde encore un très très bon, excellent souvenir, ça reste encore présent dans mon esprit. Voilà, et depuis on ne s'est plus quitté. Enfin, on s'est quitté.
On reste en contact.
Voilà, on reste en contact. Et les vrais amis, ben, tu ne les vois pas de 10 ans, mais quand tu les vois 10 ans après, ben, c'est toujours tes amis. Et tu as de quoi échanger. Et voilà.
On va terminer cette émission avec une chanson Bella Ciao.
Ta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ta mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà.
Musique à thème, que du bonheur.
C'était Musique à thème.
Attention. On a fait l'émission Musique à thème.
Avec celle-là.
On a fait l'émission Musique à thème.
Oh, éclaté.
Voilà, ainsi se termine cette émission Musique à thème. On était en compagnie de notre invité, Monsieur Mario Morisi.
Bravo.
Mario Morisi, je vous rappelle, il est écrivain, journaliste, producteur radio. Il a bourlingué dans plusieurs pays. Tu parles une multitude de langues. Tu es venu pour nous parler de ton dernier opus qui s'appelle « Le traité du savoir où », qui est édité au Souffle Court. Alors, je vais rappeler le site de l'éditeur. C'est www.soufflecourt.com/auteur/Mario-Morisi. Pour acheter le livre. Sinon, vous pouvez également le contacter sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook, Mario Morisi.
Tout à fait.
M-O-R-I-S-I. Et je rappelle que tu as un site
qui s'appelle www.mariomorisi.fr.
Voilà, avant de terminer cette émission, je vais te laisser une minute carte blanche pour dire ce que tu souhaites.
Très bien, c'est long. Donc j'ai sous les yeux la page 141 du traité de savoir où, la nouvelle qui s'appelle Odyssée 92, 39-92, et je lis. Il pleuvait si violemment que notre Peugeot eut du mal à se frayer un chemin sur la route qui relie les Goudes à la Pointe Rouge. Des ruisseaux endiablés serpentaient dans le bitume, éventrés et dans les ornières, et nous manquâmes plusieurs fois briser notre pot d'échappement, de sorte que nous décidâmes de faire halte au café des régates pour nous remettre de nos émotions. « Regarde, me dit Rachid, dès que nous fûmes trouvés près du jukebox vidéo, je crois que tu connais le patron. » Jules Vaca, le capitaine du Grand OM, était devant moi et cela me rappelait l'époque où nous, les sportifs, boxeurs, nageurs, footballeurs, nous retrouvions dans les boîtes à truands où les bouchons de champagne sautaient comme les gousses d'ail au bar du téléphone. Leclerc, Magnusson, Skoblar, l'OM 69-72 quoi.
C'était un extrait du livre « Le traité du savoir où ». www.soufflecourt.com/auteur/mario-morizi ou sur le site de Mario Morizi.
Et dans toutes les librairies de France, par Dilicom, votre libraire peut commander, bien sûr, le bouquin, c'est un bouquin à part entière.
En tout cas, une chose qui est sûre, ça a été un grand et un joli moment de découverte en ta compagnie, Mario Morizi. Alors, on a fait un petit peu le tour, mais brièvement, parce qu'on pourrait faire 5, 6, 7, 8 émissions pour tout connaître l'aventure de Mario Morizi. Ton site www.mariomorizi.fr.
Et puis un mot à tous les enfants, à tous les jeunes qui nous écoutent, à tous les gens, à tous les vieux. Écrire, ça doit être la possibilité de tout le monde. Il faudrait que tous les êtres vivants qui passent sur Terre aient pu et puissent laisser une trace de leur passage, parce que c'est soi-même qui raconte son histoire. Il ne faut pas laisser les autres raconter nos histoires.
Bravo. Et on va remercier Monsieur Bernard Di Domenico, Di Reggae Doc, Di Berdido, Di Bernard, tout simplement. Merci.
Merci.
Grâce à toi, on a pu avoir le plaisir de recevoir Mario Morizi. Oui. Mais un grand merci à toi pour tout ce que tu fais. Et je vais le dire, pour notre complicité.
Tout à fait.
Tu es un grand monsieur, toujours dans l'humilité, la simplicité, et c'est ce qui fait que tu rayonnes.
Oui, mais sans vous, Serge, sans la radio près de chez vous, on ne serait rien. Merci à toi pour ton accueil. Merci à Laura Vive de nous avoir accueillis et d'avoir permis aussi de connaître mieux Mario.
Merci.
Merci Mario.
Merci.
Merci Bernard.
Merci Serge, merci Laura Vive et à très très bientôt.
Shalom les Travad, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.